VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais tout d'abord, le journal. L'ancien Premier ministre Mohamed Abdoulaye Farmajo a été élu président aujourd'hui à l'issue d'un vote au second tour de l'élection présidentielle placée sous haute sécurité. Les autorités craignaient une nouvelle attaque des islamistes radicaux Al-Shabaab. Jacques Aristide.
Avec 184 voix, Mohamed Abdoulaye Farmajo a obtenu plus de la moitié des votes des 329 parlementaires. Ce résultat ne lui permettait pas d'obtenir la majorité des deux tiers nécessaires pour être proclamé vainqueur dès le deuxième tour du scrutin. Mais le candidat arrivé deuxième, l'actuel président Hassan Sheikh Mohamed, a reconnu sa défaite avant l'organisation d'un troisième et dernier tour. Trois candidats s'affrontaient contre 21 au premier tour ce matin. Le vote était diffusé en direct à la télévision. Sécurité oblige, c'est dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio que les 275 députés et 54 sénateurs déposaient leurs bulletins dans des boîtes transparentes. Élection cruciale, elle marque la fin d'un processus maintes fois retardé et entaché de nombreuses accusations de corruption et manipulation. Elle vise à sortir la Somalie du chaos après des années de conflit. Dans la région semi-autonome du Puntland, au nord-est ce matin, au moins 6 personnes ont été tuées lorsque des membres présumés du groupe Al-Shabaab ont attaqué un hôtel.
Au Mali, enlèvement d'une religieuse colombienne dans la nuit de mardi à mercredi à la congrégation des sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception de Carangasso, près de Koutiala dans le sud du pays. Pas de revendication pour le moment concernant ce premier rapt dans la région de Sikasso. Plus de détails avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
À la congrégation sœurs franciscaine de Carangasso, dans le cercle de Koutiala, les débuts de nuit sont très calmes. Mais ce mardi 7 février 2017, tel n'a pas été le cas. La grande quiétude a été perturbée par des invités inattendus qui ont fait irruption à la congrégation. Ces assaillants ont apporté des matériels informatiques, un véhicule de la communauté, qu'ils finiront par abandonner au niveau de la voie bitumée. Du coup, ils sont partis avec l'otage sur des motos. L'otage en question n'est autre que la sœur Gloria Agoti. Elle travaillait pour la congrégation des sœurs franciscaines de Carangasso depuis une dizaine d'années. La religieuse colombienne a été enlevée par des hommes armés non identifiés qui ont pris une destination inconnue. Aussitôt, l'armée malienne a été déployée à Carangasso et environnant. Ils ont procédé à des ratissages dans la zone qui est située à 320 km à l'est de Bamako. Carangasso, pour ne pas dire le cercle de Koutiala, fait frontière avec le Burkina Faso. En tout cas, il n'y a aucune revendication suite à cet enlèvement, qui d'ailleurs est la première dans la région de Sikasso. Même si des djihadistes avaient attaqué la localité de Misseni et Fakola en mars 2015 vers la frontière ivoirienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes s'efforcent de désamorcer la mutinerie de militaires des forces spéciales à Adjaké. Dernier épisode d'une série de soulèvements dans les forces armées qui font craindre le retour du pays dans l'instabilité. Le gouvernement ivoirien condamne et déplore ces formes violentes de revendications, a déclaré le ministre de la Communication, Bruno Namanié. Connaît à l'issue du Conseil des ministres, évoquant une attitude malheureusement récurrente ces derniers temps. Un convoi de mutins a quitté la ville d'Adjaké pour Abidjan où une rencontre avec le ministre ivoirien de la Défense, Alain Richard Donwani, est prévue. Christophe Kwame, président de CVC, Citoyens et Participation, fait des propositions pour le retour de la sérénité dans l'armée ivoirienne.
Il y a une gestion tout à fait opaque d'une situation nationale. Alors la question qu'on se pose en tant qu'observateur, est-ce que réellement les forces armées de Côte d'Ivoire sont une armée qu'on voudrait républicaine, auquel cas il faut faire appel aux institutions républicaines pour gérer la crise? Ou alors si c'est des factions d'armées qui sont dans un camp, alors on accepte l'opacité. Mais il n'est pas tard, la mutinerie à Diaké nous rappelle à nos bons soins, à l'exécutif ivoirien, au président Alassane Ouattara, qu'il devrait gérer cette situation de manière plus transparente, en incluant le Parlement, en incluant l'opposition dans son entièreté et en recherchant l'unité nationale devant un problème aussi grave qui touche notre nation.
Christophe Kwame à Abidjan, Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Libye, le Parlement libyen basé dans l'est du pays a jugé nul et non avenu un accord sur la lutte contre l'immigration clandestine signé la semaine dernière par le gouvernement libyen d'Union nationale et l'Italie. Les détails avec Nathalie Barge.
Le Parlement installé à Tobrouk considère qu'il n'y a aucune obligation morale ou matérielle liée à cet accord, car le gouvernement d'Union et son chef, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, n'ont aucun statut juridique dans l'État libyen. Ce Parlement ne reconnaît pas le gouvernement d'Union soutenu par l'ONU, mais appuie son rival basé dans l'Est libyen. M. Sarraj a signé à Rome le 2 février avec son homologue italien Paolo Gentiloni un mémorandum d'accord visant à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine depuis la Libye. Des observateurs et personnalités politiques ont critiqué cet accord, affirmant qu'il prévoyait le refoulement des immigrés vers la Libye, ce que le gouvernement d'Union a toutefois démenti. Les Européens envisagent des mesures pour bloquer l'arrivée de milliers de migrants depuis la Libye, l'un des pays de passage obligés pour rejoindre l'Europe.
Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne franchit ce mercredi une étape cruciale avec un vote des députés britanniques pour donner le feu vert à la première ministre Theresa May pour activer le processus du Brexit le mois prochain. Tatiana Mosso.
L'adoption définitive du texte ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines. Mais Theresa May a répété qu'elle déclencherait avant le 31 mars l'article du traité de Lisbonne qui lancera 2 années de négociations de sortie de l'Union européenne. Le gouvernement a aussitôt prévenu qu'un rejet des termes du Brexit par les députés n'empêcherait en aucun cas la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Lors d'un vote purement symbolique à Édimbourg, mardi soir, le Parlement écossais, dominé par les indépendantistes du SNP, a lui voté à une majorité écrasante contre le projet de loi du gouvernement britannique autorisant Theresa May à lancer le processus du Brexit. Mais ce vote, acquis par 90 voix contre 34, est qualifié la veille comme l'un des plus significatifs dans l'histoire du Parlement écossais depuis la dévolution de 1998, restera sans effet. Autre réaction, celle du PDG de la compagnie irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, qui s'est dit convaincu que d'ici 2 ans, les tenants du Brexit allaient changer d'avis. Selon lui, les partisans du Brexit leur ont menti en disant « on peut quitter le marché unique, rien ne va changer », alors que ça va sacrément changer, selon lui.
Actualité américaine pour terminer, plusieurs législateurs républicains souhaitent limiter l'immigration légale. C'est pour durcir les conditions de regroupement familial et d'attribution de cartes vertes pour résidence permanente et aussi pour promouvoir la suppression de la loterie pour les visas d'entrée aux États-Unis. Le projet de loi déposé par les sénateurs Tom Cotton et David Perdue souligne notamment que seuls les conjoints et les enfants mineurs non mariés de citoyens ou résidents permanents pourraient être sponsorisés. La réaction de l'activiste pro-immigration Bakary Tandja au micro d'Éric Manirakiza.
Cette loi, elle est tellement utopique, je ne pense même pas qu'elle aura en tout cas la chance de voir le jour. Il y aura une mobilisation massive et active pour arrêter et stopper totalement l'avancée de cette loi. Parce que ça va affecter énormément de gens, immigrants, des citoyens. Il y a beaucoup de familles qui sont des familles hybrides. Certains membres de la famille sont par exemple citoyens, d'autres ne le sont pas.
Vous parlez de mobilisation, mais les Républicains détiennent la majorité dans les deux chambres pour faire passer toute loi qu'ils veulent.
Ils ont la majorité, ça c'est vrai. Mais le problème est que cette loi va affecter aussi bien les républicains que les démocrates. Tout ce qui va fondamentalement mettre en cause l'Amérique, ce que l'Amérique représente, en tout cas tout ce qui tient réellement à protéger l'intérêt national américain, je peux présumer que des sénateurs bien connus, même au niveau international, comme John McCain, ne vont pas soutenir une proposition de loi pareille, qui va en tout cas apporter des modifications fondamentales, qui va mettre en cause même les fondements de ce que constituent les États-Unis. La suppression de la loterie Green Card va particulièrement nous affecter. Chaque année, le gouvernement américain sélectionne des candidats et la majeure partie de ceux qui gagnent cette loterie sont des Africains. La majorité, ces dernières années, la majorité des Africains qui sont venus ici avec le statut d'immigrant sont venus à travers ce canal.
Bakary Tandja, un activiste pro-immigration à New York. Merci de votre attention.